9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Maître Serran, 1m86, 84 kilos de muscles et doté d'une chevelure extrêmement fournie. Vous pouvez en témoigner, mon cher Philippe. Vous, salut, camarade auditeur. Je suis ravi de pouvoir vous accompagner pour une petite heure au cours de laquelle, après nous avoir exposé vos problèmes avec votre boss, avec votre conjoint, avec votre voisin, votre locataire ou propriétaire, voire même avec l'administration, nous tenterons de vous apporter quelques solutions pour mettre fin à ces litiges. Mais vous connaissez le principe de l'émission, avant de poser vos questions, nous allons évoquer l'actualité de la semaine, une actualité d'abord politique avec ces discussions concernant nos retraites. Alors je sais, mon cher Philippe, que vous vous passionnez pour tous ces débats en même temps. Ça se comprend, car dans très peu de temps, vous serez directement concerné par votre nouveau statut de retraité. Vous qui êtes un homme extrêmement actif, comment allez-vous pouvoir occuper vos journées? J'ai vu sur votre bureau qu'il y avait des prospectus d'une association qui organise des thés dansants. Eh oui, c'est bien un truc de vieux, ça, de belles journées en perspective. Et puis, viendra le jour où nous, car je m'inclus dedans, où nos lectures porteront sur les maisons de retraite, où nous savons déjà que le personnel passera son temps à nous maltraiter, à nous laisser des journées entières avec des couches pleines, où on passera une grande partie de notre temps, non seulement à chercher nos lunettes, qui ont pour habitude de disparaître régulièrement, mais également à chercher notre dentier, bref, que des activités passionnantes. Et enfin, ce parcours se terminera par des lectures de prospectus concernant l'organisation des obsèques, car il sera alors temps de penser à notre futur départ dans l'au-delà. Organisation des funérailles qui deviendra une activité à plein temps. Quelle fin je désire? Une crémation peut-être, mais au prix où est le gaz, une crémation doit coûter une fortune. Optons peut-être pour un repos classique, à savoir un corps dans une caisse en bois, 2 mètres sous terre, tout ça, pour finir bouffé par les vers, ou alors, et pourquoi pas, mon cher Philippe, une momification. Donc, profitons du temps qui nous reste, mangeons, jouons, sortons, usons de notre sgeg à volonté avant que ce dernier ne devienne qu'un vieux souvenir. Quand je pense que tout cela a débuté avec un débat à l'Assemblée nationale sur les retraites. Mais l'actualité de la semaine a aussi et surtout été marquée par ce qui n'est en définitive qu'un fait divers, l'accident dont Pierre Palmade a été déclaré responsable. Triste fait divers, mais quand t'es connu, ça prend une toute autre ampleur, évidemment. On en parle des jours et des jours. Chaque minute de cette histoire nous est comptée, donne lieu à un flash spécial. Et pourtant, combien d'histoires similaires chaque jour, des types sous l'effet de l'alcool, sous l'effet de stupéfiants, commettent l'irréparable. Je ne pourrais jamais oublier le regard de ce père d'un certain âge qui est venu me voir il y a quelques mois avec des photos de sa fille sur son lit d'hôpital et des tuyaux partout, m'expliquant qu'elle a été renversée par un chauffard qui avait eu la mauvaise idée de prendre le volant bourré comme un cheval. Une belle jeune fille qui avait une famille, des amis, un boulot et qui se retrouve dans le coma depuis des mois. La vie étant ce qu'elle est, aujourd'hui, elle ne reçoit plus de visite de ses amis, car dans de telles circonstances, même votre meilleur ami finit par espacer ses visites pour ne plus venir vous voir. Seuls ses parents très âgés viennent lui rendre visite. Et ce père m'a achevé lorsqu'il m'a dit « Mais maître, si demain je meurs, qui viendra voir mon enfant ? Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ?» J'ai simplement tenté de retenir mes larmes. Bien, j'espère ne pas vous avoir plombé votre samedi. Allez, on se reprend et j'attends vos appels au 01 53 48 3000 pour poser vos questions. Émission sous le contrôle de celui qui est encore bien loin de fréquenter les maisons de retraite, monsieur Philippe Robichon, à vous, vieux bonhomme.
Oh, j'aurais pas les moyens d'y aller, maître Serran. C'est cher, les maisons de retraite.
C'est ça qui est fou.
Franchement, quand on regarde ce que ça coûte pour le service.
Le service rendu, c'est ça qui est assez surprenant.
Bon, après, on peut pas mettre toutes les maisons de retraite dans le même sac. Hein. C'est vrai que, voilà, à chaque fois, on parle des. Il y en a des biens, vous verrez.
Oui, mais ils sont hors de prix, non?
Non, pas forcément. Non, c'est pas corrélé avec le prix que vous payez. Hein.
On prend une chambre double, ils peuvent nous faire un tarif
de groupe. Ah oui, non, ce serait une bonne idée, ça, etc.
Voilà, bon. Vous aurez à me supporter. C'est les deux marionnettes, là, les deux vieilles marionnettes.
Les deux vieux du Muppet Show.
Ouais, c'est ça.
Bon, c'est ce qui va nous arriver. J'ai été étonné de voir à quel point l'histoire de Pierre Palmade a squatté l'actualité aussi longtemps. En général, un sujet, ça s'évacue au bout de un ou deux jours, non ? Lui, il a fait le.
Il a tenu la
rampe toute la semaine. Hein.
Bah, il a tenu la rampe avec, comme dirait l'autre, avec de un faux suspense. D'abord, c'est assez surprenant. Voilà, il est connu, mais ça méritait pas qu'on en parle tous les jours et toutes les fractions de secondes, puisque quelles que soient les chaînes d'infos, même les chaînes d'infos classiques, donc on avait le droit à ça. Avec moi, c'est un peu ça qui m'a surpris, avec une sorte de faux suspense, à savoir, c'était la question que les journalistes n'ont cessé de poser, est-ce que Pierre Palmade va être incarcéré ou pas.
Détention provisoire. Voilà,
c'est l'éternelle
pour
question.
Pour vous, c'était un faux suspense.
Bah, c'est n'importe quoi, parce que... Alors, c'est évidemment... c'est terrible pour la famille des victimes, mais dans ce type de situation, dans ce type de délit, on n'a pas de détention provisoire.
Ça n'arrive jamais.
Voilà, honnêtement, donc c'est pour ça que je vous dis la fausse histoire, est-ce qu'il va être incarcéré ou pas. Et d'ailleurs, vous avez vu que les deux personnes qui étaient dans le véhicule n'ont même pas été mises en examen, c'est-à-dire qu'elles sont elles sont sorties avec un statut de témoin assisté.
Non, mais délit de fuite quand même.
Oui, mais alors ça c'est un peu surprenant, l'histoire de témoin assisté.
Non, mais c'est ça qui m'étonne.
Ouais, parce que l'une des personnes est en situation irrégulière, c'est-à-dire que pour moins que ça, quand vous avez commis un délit encore une fois beaucoup moins grave que ça et que vous êtes en situation irrégulière, vous avez des magistrats qui n'hésitent pas, pour être certain que vous n'allez pas prendre la fuite, qui n'hésitent pas parfois même à vous incarcérer. Donc c'est vrai que c'est plus surprenant, évidemment, pour les deux autres personnes, sauf que il y avait une logique juridique, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas être plus dur avec ces personnes-là qui n'étaient pas au volant et être entre guillemets plus doux avec Pierre Palmade. Donc à partir du moment où le premier concerné n'a pas été incarcéré, ça semblait juridiquement logique que les deux autres à minima ne soient pas concernés par la détention. Après, aller jusqu'au statut de témoin assisté, pourquoi pas. Mais moi, c'est plutôt, encore une fois, c'est plutôt ça qui m'a surpris avec ces histoires de faux suspense. Et puis, il y a cette histoire, évidemment, et c'est là où la qualification juridique va, en tout cas, peut changer. Il est poursuivi actuellement pour un homicide involontaire. Donc, homicide involontaire, c'est-à-dire, il y a eu la mort de quelqu'un, mais, entre guillemets, j'ai pas fait exprès. Donc, homicide involontaire, ça veut dire ça. Mais l'homicide involontaire, en tout cas, cette qualification, part du principe que parce que la femme était enceinte, donc on part du principe que le fœtus, peut-être, pendant quelques fractions de secondes, était vivant. Sauf que, en tout cas, il y a une première expertise qui dit que non. Et donc, il faut savoir que si on considère que le fœtus n'était pas vivant, la qualification juridique d'homicide tombe par définition. Et on est sur des blessures involontaires. Alors, je le redis, évidemment, quand vous êtes la mère concernée, c'est difficilement audible. Mais juridiquement, pour l'instant, c'est ça. C'est-à-dire que il est peu probable, honnêtement, que la seconde expertise vienne nous dire que l'enfant était vivant, ne serait-ce que quelques minutes. Mais dans l'hypothèse où ce serait le cas, on reste sur un homicide involontaire. Et puis, si c'est pas le cas, on va retomber sur une qualification en dessous, qui est une qualification de blessure involontaire. Alors, pénalement, ça change tout, puisqu'évidemment les sanctions sont beaucoup moins lourdes, bien que il est en état de récidive, puisqu'il avait été condamné de thèse, je crois que c'est 2019, donc il y aura quand même une sanction par rapport à cette histoire de récidive. Mais en vérité, alors, ça je peux comprendre les familles qui attendent probablement une condamnation au pénal. Ça se jouera ensuite sur l'aspect civil, sur l'aspect dédommagement, bien que souvent on entend dire « oui, mais maître, l'argent, comme dirait l'autre, je m'en fous, vous avez vu la situation ». Mais c'est plutôt sur cet aspect-là où ça va taper fort. Mais c'est comme ça, dans ce type de situation, les sanctions pénales ne sont pas lourdes, très souvent, alors que vous appeliez Palmade ou pas, très souvent...
Oui, ça n'a rien à faire, à voir avec le fait qu'il soit connu.
Non, absolument
c'est,
pas.
C'est toujours le cas.
Ouais, dans ce type de situation, le client ne part pas en détention. Le procès a lieu 1 an et demi, 2 ans après, et puis vous ressortez avec une peine de prison avec sursis. Donc c'est vrai qu'on se dit il y a eu la mort d'une personne, ou vous avez des personnes qui vont évidemment avoir des séquelles ad vitam aeternam. Les familles sont toujours déçues, toujours. Et ça c'est terrible parce que quand on vient voir l'avocat. Et j'évoquais l'histoire de ce père concernant sa fille qui a été renversée. Quand on vient vous voir, ils s'attendent à ce que l'avocat explique que ce type d'abord va aller en prison et il va y aller pour longtemps. Ouais. Donc ouais, ils attendent ça, mais c'est légitime et on peut l'entendre et le comprendre. Et pour être tout à fait honnête intellectuellement, ça ne sert à rien de faire croire à ces familles qui sont en souffrance que l'intéressé va aller en prison et en prison pour longtemps. Donc c'est vrai qu'elles sont toujours déçues de la réponse de l'avocat, car quand vous dites à ces familles que l'intéressé n'ira pas en prison et que l'intéressé se présentera libre à son procès et il en sortira avec de la prison avec sursis, on peut évidemment comprendre que quand vous avez une personne qui est décédée ou une personne qui, encore une fois, va avoir des séquelles toute sa vie, et vous entendez ça en disant « mais il n'y aura même pas de prison ferme », il y a toujours une déception. C'est très compliqué d'essayer de faire comprendre à ces familles pourquoi, puisqu'ils considèrent que la justice est laxiste en la matière, mais pourquoi est-ce que il ne faut pas s'attendre à ce que les personnes aillent en prison pendant des années? Encore une fois, puisque, je le redis, en dehors de l'homicide involontaire, on est sur des blessures, mais ça reste des blessures involontaires. Involontaires, je le redis, ça veut dire j'ai pas fait exprès, et puis même si on écarte l'alcool, même si on écarte la drogue, même si vous avez respecté les limitations de vitesse et autres, c'est terrible, mais malheureusement après on considère que c'est la vie, c'est-à-dire qu'un accident peut arriver, et même si les conséquences de cet accident sont dramatiques, c'est-à-dire si se solde par le décès des personnes qui sont dans l'autre véhicule, il ne faut pas s'attendre à ce que l'auteur de cet accident parte en prison.
Alors c'est vrai qu'on parle toujours des personnes qui conduisent en état d'ivresse, un peu moins des personnes qui prennent la route en état de conscience modifiée suite à l'absorption de drogue, mais c'est le résultat est le même.
Hein. Ah, le résultat est le même. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup maintenant, les contrôles se sont intensifiés en la matière, mais je veux dire qu'il faut... Il faut faire attention à ça, et puis il faut tenir un discours à l'égard des jeunes, sauf que Pierre Palmade n'est plus c'est plus le petit jeune de 20 ans qui a fumé un ou deux joints et qui prend le volant. Mais c'est vrai qu'en règle générale, c'est plutôt ce type de personnes concernées par ça. Moi, je le vois à travers mes clients, c'est-à-dire que vous avez, ce sont des gamins qui vous disent effectivement, voilà, moi je fume et puis je me sens bien, et donc si je me sens bien, je prends le volant. Sauf que parfois, il arrive ce qui devait arriver, donc il y a un accident, et puis si vous êtes sous l'effet de stup, parce qu'évidemment ça reste dans le sang, vous allez aggraver votre sanction, votre situation. Et je le redis, qui se traduit en plus par des dommages et intérêts qui peuvent être conséquents. Donc, je le redis, encore une fois, cette affaire Palmade est l'affaire de monsieur et madame tout le monde. Donc, il n'y a rien de particulier à en tirer comme conséquence. Alors, je sais que le procureur de la République a fait appel, puisqu'il avait demandé la
mise en détention provisoire.
Bon, on va avoir un résultat, mais la probabilité est infinitésimale pour qu'il soit placé en détention.
Vous posez vos questions à Maître Serane ce matin au standard de Beurre FM, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Maître Serane, on va essayer de travailler comme ça ce matin, hein, sans son. On n'a pas de son. C'est intéressant pour faire de la radio.
Et Dalila.
Ah ouais.
Ouais, c'est.
Et alors, vous n'avez pas d'auteur, en fait. Ça fuse.
Ouais, ouais.
C'est ça le truc. En fait, vous êtes drôle instantanément.
Ouais, c'est vrai.
C'est ça qui est intéressant, Maître Serran.
C'est pas mal. Ouais. C'est pas donné à tout le monde.
Non, mais non. On va essayer de nous mettre du son quelque part, Maître Serran.
Ouais.
Comme ça, ça va permettre d'entendre les auditeurs qui vous interrogent.
À minima.
Voilà, au 01 53 48 3000. Et nous avons Ali qui est avec nous. Et donc, Ali, allô.
Oui, allô.
Oui,
allô.
Oui, bienvenue, Ali.
Oui, bonjour, monsieur Robuchon. Bonjour, Maître Serran.
Bonjour, Ali.
Voilà. Juste une petite question. Vous en avez parlé déjà la semaine dernière sur la décision exécutoire.
Oui. Alors, c'est une exéquature. Est-ce qu'on parle bien de ça?
Exéquature, pardon. Oui, c'est moi.
C'est ça,
moi.
Dites-moi.
Désolé. Voilà, j'ai ma belle-sœur qui était mariée ici en France. Elle a divorcé ici en France. Et en allant à Nanterre, donc, pour faire ses dossiers, tout ça, on lui a demandé qu'il fallait qu'elle aille en Algérie pour qu'elle fasse la transcription de l'exécutoire en Algérie. Mais au consulat, ils ne lui font pas. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal? Je ne sais pas.
Alors, le truc, c'est pour bien comprendre, c'est-à-dire qu'elle a divorcé sur le territoire français.
Ah oui, tout à fait, mariée sur le territoire français.
Voilà, alors elle s'est mariée en France, elle est divorcée en France. Et donc, voilà, quand on est marié, divorcé, on peut faire transcrire sa décision sur son acte d'état civil. Donc, elle est née en Algérie, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui.
Voilà, de nationalité française ou de nationalité algérienne?
De nationalité française.
Bah, si elle est de nationalité française, ça pose pas de difficulté pour faire transcrire, comme on dit, sa décision.
Oui.
Puisqu'elle est de nationalité française. En fait, ça concerne les personnes qui veulent faire transcrire, soit parce qu'elles sont de nationalité étrangère, soit parce qu'elles sont nées au pays et puis elles veulent que ça apparaisse sur l'acte d'état civil algérien. Dans ce cas,
c'est-à-dire l'acte de naissance
de l'intéressé,
la commune où elle est née.
Voilà. Donc effectivement, les autorités algériennes demandent ce que demande l'autorité française, c'est-à-dire qu'on demande à ce que cette décision française puisse être exécutoire sur le territoire algérien. Et là, il n'y a pas mille options. C'est-à-dire que nous, on a parfois des clients qui disent, puisque c'est comme ça, je vais aller divorcer aussi au pays, et d'autres qui prennent leur jugement français pour le faire exécuter au pays. Donc il y a une procédure qui est similaire à la procédure sur le territoire français pour que l'Algérie reconnaisse ce jugement français. Donc quand on l'invite ou quand on lui dit il faut faire exéquaturer votre décision, c'est pas une fausse information, effectivement faut le faire. Maintenant ça relève pas de facto des autorités consulaires, c'est-à-dire qu'on peut vous demander, encore une fois, comme sur le territoire français, d'aller voir un juge algérien et de faire en sorte que ce jugement français se transforme en jugement algérien.
Mais ça, en l'occurrence, il faut retourner au pays, là-bas, pour...
Sincèrement, moi, j'ai beaucoup de clients qui... passe au pays, mais j'ai beaucoup de clients qui, pour mettre fin à ce type de tracasserie, disent « moi je suis divorcé en France, banco, je suis tranquille, et puis je vais aller au pays et puis engager une procédure de divorce qui, contrairement à la France, sera prononcée extrêmement rapidement. » Donc parfois, ça vaut le coup d'aller au pays, de faire une deuxième procédure pour être carré également auprès des autorités administratives algériennes.
D'accord. Si je comprends bien, maître, c'est que le consulat, par exemple, ici en France, ne peut pas intervenir, ne peut pas le faire.
C'est pas qu'ils refusent, c'est qu'ils sont pas compétents.
Non, ils sont pas compétents. C'est-à-dire, on va pas demander à un consulat français de prendre juste la décision d'un pays étranger, en l'occurrence. Dans votre exemple algérien, pour dire je vais faire le nécessaire. Là, le consulat n'a pas compétence pour. Donc c'est normal que la décision soit reconnue, en tout cas que le jugement soit reconnu en tant que jugement de divorce.
D'accord. Et la transcription du mariage et du divorce a été faite, tout a été transcrit.
Ouais,
hein.
Bah oui, parce que si vous me dites qu'elle est de nationalité française, donc ça, sur le territoire français, ça pose pas de difficulté. Oui. C'est-à-dire, les administrations vont évidemment de facto reconnaître un jugement français. Après, la question se pose de faire apparaître ce jugement, donc cette transcription cette fois-ci, mais sur l'acte d'état civil de l'intéressé au pays. Donc la difficulté, en tout cas la question, elle n'est pas posée par les autorités françaises, mais elle est posée en l'occurrence par les autorités algériennes.
Par les autorités algériennes, effectivement. Ouais. Ouais. Oui, oui, absolument. Ouais, d'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup, Maître Zeran, parce que bon, bah, vous m'avez un petit peu éclairé un petit peu sur le sujet. Voilà.
Merci.
Je
à vous
remercie beaucoup.
Juste un petit peu, oui. Ali, pas plus que ça.
Je n'osais pas le dire. Ouais,
un petit peu, moi, ça me paraît
oui,
pas beaucoup.
Oui, oui.
Ouais. Ouais, ça, c'est comme les gens qui vous disent merci quand même.
Quand même, voilà.
Quand on rajoute le quand même.
Un petit peu, ouais, voyez, mais Zeran, il ne travaille pas pour un petit peu. Hein.
Ouais, c'est ça.
Ben, merci quand même.
Ah ben, voilà. On a le droit aux deux.
Oh mon Dieu. Ouais, c'est drôle. Merci Ali, vous êtes drôle. Merci de votre bonne humeur.
Bien sûr, tout à fait. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.
Et vous nous appelez d'où, Ali, ce matin? Vous nous appelez où, d'ailleurs?
Ben, j'appelle de l'Eure-et-Loire.
Ah, de l'Eure-et-Loire. Vous êtes dans quelle ville?
Ah, je suis de Dreux.
À Dreux, voilà, c'est ça. Ali,
ouais, c'est pas loin de Paris, c'est à 80 km de Paris.
C'est pas très loin.
C'est pas trop loin.
Un petit peu la Normandie. Merci Ali.
Oui, à limite. Merci beaucoup.
Au plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Merci, bonne journée.
Alors, Maître Zeran, on accueille Hamid au 01 53 48 3000. Hamid, bienvenue.
Ah oui, bonjour.
Bonjour Hamid.
Bonjour Hamid. Maître, je voulais vous poser une question. J'ai eu un jugement provisoire de divorce qui a été établi en octobre 2022 où elle me demande, la juge de famille, de quitter le domicile conjugal au plus tard le 26 janvier. Mmh. Et moi, je suis handicapé à plus de 80%.
Alors, c'est pas commun. C'est-à-dire que alors, en règle générale, très souvent, on va pas dire des bêtises, mais très souvent, le domicile conjugal, quand madame le sollicite, il est attribué à madame. Maintenant, les magistrats prennent en considération quand même la situation de l'intéressé. Donc, si vous me dites que vous êtes handicapé à plus de 80%, c'est vrai qu'on peut quand même se poser la question de cette décision.
Justement, je suis en fauteuil roulant et ça fait exactement 18 jours, moi, je suis dans la voiture parce que j'ai été pas... Moi, j'ai fait ma demande de logement quand j'ai eu le jugement provisoire. Ouais. Le jugement provisoire, car mon avocat, il m'a dit, je ne devais pas sortir parce que c'est un jugement provisoire.
Non, alors ça ne veut pas dire ça, justement. C'est-à-dire que le jugement provisoire, monsieur... Ça veut dire que moi, magistrat, je prends une décision, mais en attendant que la deuxième partie de la procédure de divorce, hein, pour bien comprendre, il y a toujours un divorce se passe en deux temps. Donc il y a une première décision, celle que vous avez évoquée, et puis ensuite il y aura la décision définitive. Mais en attendant ce jugement définitif, le magistrat dit, moi je vais prendre ça comme mesure. C'est-à-dire que si moi, juge, je vous demande de quitter le domicile... Je fixe éventuellement une pension alimentaire pour madame. Ce sont des mesures provisoires, mais qui vont, par définition, s'appliquer jusqu'à ce que le juge rende la deuxième décision, en tout cas le jugement définitif. Donc, si cette décision, même si elle ne fait pas plaisir, elle s'applique.
D'accord.
Est-ce que vous l'avez contesté, monsieur? Est-ce que
je demandais justement à mon avocat de contester.
Voilà.
Et il m'a dit de ne pas aller contester le divorce. Je lui dis, je ne conteste pas le divorce, mais la décision du juge, plus quitte le domicile conjugal dans mon état, plus la pension alimentaire qu'elle m'a fait, plus que mon salaire.
Bah, oui. Alors là encore.
Moi, je touche une pension d'invalidité. J'ai trois majeurs qui travaillent.
Qui sont au domicile?
Oui, qui sont au domicile, elle m'a compté, je dois les assumer jusqu'à ce qu'ils vont trouver un travail stable et vont sortir. J'ai ma grande-fille, elle va se marier là. Donc je vais assumer même son mari, même ses enfants, quoi. Pas à comprendre. Vous voyez, je dis à mon avocat de contester, mais l'avocat, comme c'est un avocat d'office, je ne sais pas, il ne répond même pas des fois.
D'accord, alors, ce ne serait pas sympa de ma part de dire ceci explique cela, mais... moi, j'en veux pas aux confrères. Il faut savoir que quand vous intervenez dans le cadre de la commission d'office, alors vous êtes rémunéré par l'État, mais vous êtes tellement peu rémunéré par l'État, et en particulier pour des dossiers de cette nature qui nécessitent quand même beaucoup d'investissement et de temps, et en particulier si l'avocat fait appel. Donc, voilà, la réponse du confrère n'est pas plus surprenante que ça. Maintenant, il y a plusieurs points. C'est-à-dire qu'en règle générale, monsieur, un magistrat fixe le montant de la pension alimentaire alors versée à madame ou le montant de la pension versée aux enfants en fonction de la situation financière des uns et des autres. C'est-à-dire que je n'ai pas de dossier où un magistrat condamnerait un client à verser plus que ce qu'il perçoit. Vous voyez, et parfois, et ça me semble logique, lorsqu'un magistrat considère qu'une personne n'a pas les moyens de régler une pension alimentaire, elle déclare cette personne insolvable. C'est-à-dire qu'on dit, bah, monsieur, je ne peux pas vous condamner parce que vos revenus ne le permettent pas. Donc, alors, j'ai peut-être pas tous les éléments de votre dossier, mais ça me semble, assez surprenant sur l'histoire de la pension alimentaire. Ensuite, sur l'histoire des enfants, il faut savoir que si vous avez des enfants qui sont majeurs, le magistrat prend en considération leur situation. C'est-à-dire que s'ils sont étudiants, on va considérer que c'est à vous, en tout cas aux parents, de prendre en charge les enfants. Maintenant, s'ils sont majeurs et ils font rien de leur journée, bah, le magistrat va les zapper. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus d'entretenir des enfants qui seraient des feignants. Et je vous le dis,
C'est la falsification. Elle a falsifié mon ex, elle a falsifié des papiers, vous voyez.
Quel type de papier, monsieur, a falsifié? Qu'est-ce qu'elle aurait présenté pour que le magistrat dise les enfants sont à votre...
Justement, elle leur a présenté des certificats de scolarité parce que j'ai une fille qui travaille, ça fait 3 ans, à la mairie de Bondy.
Ouais.
En même temps, elle a fait, s'est inscrite sur Internet, soi-disant qu'elle continue ses études. Alors qu'il n'y a pas de continuation, il n'y a rien.
Mais vous pouvez établir.
Elle travaille, elle a un salaire voilà. stable.
Mais ça, vous pouvez l'établir, monsieur ?
Pardon ?
Est-ce que vous avez des éléments qui...
Oui, j'ai la photocopie des fiches de paye de ma fille.
Alors, c'est suffisant.
Mon avocat.
Ouais.
Et l'autre, l'aînée, elle ne veut pas me la donner parce qu'elle est en alternance. En plus, elle travaille dans un autre magasin parce qu'elle s'est penchée avec justement celle qui va se marier. Elle a 26 ans. Elle travaille en alternance avec la Société Générale, elle fait le master. Elle a un très bon salaire. Plus elle travaille dimanche au magasin Printemps à Paris, à Haussmann. Elle a plus de gains. Il touche plus que moi, plus que je touche.
De ce que vous êtes en train de me dire, c'est ce qu'on en conclut. Alors encore une fois, voilà, moi c'est toujours, vous savez, délicat de, à distance comme ça, de dire tiens, l'avocat n'aurait peut-être pas fait ceci ou cela, mais de ce que vous me dites, ça semble assez surprenant qu'un magistrat vous ait condamné, compte tenu en plus de votre situation, vous ait condamné un à quitter le domicile et deux à la pension alimentaire. Et en fonction aussi de l'âge de vos enfants. Vous voyez, on n'est pas en train de parler d'enfants de 12 à 18 ans. Donc,
J'en ai 12, 14 ans. Je les assume. Il n'y a pas de problème.
Mais enfin, normal,
au-delà des autres, je ne peux pas. J'ai une pension d'invalidité et j'ai une complémentaire qui me fait au total 1500 euros. Là, maintenant, je me retrouve dans la voiture, ça fait 17 jours, malgré le courrier que j'ai fait au président de la République, à tous les ministères.
Ouais, non, mais. Alors, je ne veux pas vous décourager, mais honnêtement, enfin, je dis souvent ces histoires de courrier au président, au ministre de ceci ou de cela, honnêtement, c'est juste une perte de temps. Ouais, ça ne sert à rien de.
C'est sûr.
Ouais, franchement. Maintenant, vous savez, votre avocat vous a dit écoutez, ne quittez pas le domicile. Alors, d'abord.
Oui, mais j'ai été forcé par la police quand je dis. Quand ils sont venus, la police, je l'ai appelé, il ne m'a pas répondu. Une semaine après, il m'a dit qu'on connaît, il était malade, voilà.
Non, mais monsieur, pour qu'une décision soit, comme on dit, exécutoire, il faut que le premier jugement soit rendu. Ensuite, ça doit être signifié. C'est-à-dire qu'il faut qu'un huissier de justice débarque à votre domicile pour dire, cher monsieur, vous devez quitter le domicile à telle date. Est-ce que ça a été fait ?
Il n'y a rien, justement. C'est ce qu'il m'avait dit, même mon avocat.
Alors,
il m'a dit, tu n'as pas la notification de son avocat ou d'un huissier de justice, comme quoi tu dois quitter le domicile, ne quitte pas le domicile.
Alors, Hamid, vous allez rester en ligne. On va revenir dans un instant avec votre affaire qui va laisser du fil à retordre à Maître Serane. D'ailleurs, si vous avez une question juridique à poser à Maître Serane, vous nous appelez ce matin au 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors, je pensais que Maître Serane était en train de me parler, mais non, il parlait à son dictaphone. Vous êtes un geek, Maître Serane, en fait.
Non, absolument pas, non.
Mais si, je voyais bien, là, vous êtes en train de parler à je sais pas qui, à un être virtuel.
À Sequoia.
Bon, Hamid était avec nous, Hamid de Bondy, donc qui nous appelle, hein, Hamid de Bondy, qui visiblement ne veut pas payer, ouais. Maître Serane. Hamid, vous êtes toujours là ?
Oui.
Ah, c'est une décision qui a été rendue par tribunal de, judiciaire de Bobigny, alors ?
Oui.
Oui, d'accord. Bon, en tout cas, monsieur, je ne sais pas trop quoi vous dire. C'est-à-dire que des éléments que vous m'exposez, en principe, encore une fois, il n'y a pas de pension à l'égard des enfants si vous me dites que chacun d'entre eux, en tout cas les plus grands, sont financièrement autonomes. Et puis, après, cette histoire de quitter le domicile, vous savez, en règle générale, les magistrats sont assez durs, mais ça, on peut l'entendre et le comprendre, avec monsieur quand il y a de la violence au sein du couple. C'est-à-dire que si on considère que monsieur a passé son temps à tabasser madame, on peut
essayer de comprendre. Je ne l'ai jamais tapé, manqué de respect, j'ai jamais fait le truc.
D'accord, donc c'est-à-dire que c'est une procédure de divorce qui est sollicitée, mais tout se passe bien entre vous.
Oui, elle a jamais supporté mon divorce, mon handicap, vous voyez, parce que moi je suis victime d'un accident, deux accidents de travail, qui m'ont handicapé depuis 2005.
D'accord, et donc les difficultés auraient commencé à partir de là.
Ça a commencé depuis là. On a divorcé en 2012. Elle m'a fait le même coup. C'était en instance de divorce. Ça a duré pendant 3 ans, jusqu'à 2015. 2015, après ma société, parce que j'étais toujours dans l'effectif. Et ils ont cherché à négocier, comme je travaillais en citoyen, un peu de citoyen à Aulnay. Et on a négocié. Donc, ils m'ont donné mon chèque d'indemnisation et tout. Et c'est là qu'elle a demandé, c'est-à-dire qu'on reprend la vie commune.
Ah, d'accord.
Quand il y a eu le chèque.
Voilà. Et bien, elle m'a pris justement tout l'argent. Je lui ai ramené un appartement, un grand appartement ici, qui a été fait spécialement, justement, pour mon handicap, vous voyez.
Ben, ce que vous dites, monsieur, est particulièrement intéressant, parce qu'encore une fois, je le redis, moi, les magistrats prennent ça en considération. Ouais, c'est pour ça que je suis assez surpris.
Ben justement, on n'a pas pris ça en considération, la juge.
C'est ça qui est surprenant, parce qu'en plus, si l'appartement a été aménagé en fonction de votre situation, les juges, évidemment, par définition, ne vont pas dire, monsieur, ben, débrouillez-vous, et puis voilà, essayez de trouver autre chose. Donc je suis assez surpris par la décision.
Pareil, justement, c'est ça ce qui m'a étonné, parce que elle leur a dit qu'on voilà, non, l'aménagement, il a été fait, soi-disant, à l'énorme, vous voyez. Alors que moi, quand j'ai demandé le logement, j'ai fait une intervention avec la directrice générale de Bondy Habitat. Vous voyez, je lui ai expliqué mon cas et tout.
Voilà, mais vous avez des documents, monsieur, enfin, me semble-t-il.
J'ai même un enregistrement, parce que je lui ai dit comme quoi, voilà.
On va oublier l'enregistrement, on voit ça que dans les films américains. Mais ouais. Est-ce que vous avez un document qui dit qu'en plus, c'est un logement qui est un logement spécifique ?
Non, justement, dans le bail, ce n'est pas spécifié. C'est ça le problème.
Bah ouais, c'est un problème, mais à la limite. Parce qu'entre le moment où la procédure est engagée et le moment où on passe devant le tribunal, il y a quand même quelques mois qui s'écoulent. Vous auriez pu vous rapprocher du bailleur pour dire voilà la situation, merci de me spécifier.
Je me suis rapproché et il ne voulait pas. Il m'a dit qu'il faut que votre avocat me passe le courrier.
Oui, enfin voilà, quand je dis vous rapprocher, voilà. Je parle du confrère.
Non, mais l'avocat, il m'a dit c'est pas à moi de le faire, c'est à vous de le faire, c'est à moi, c'est-à-dire.
Ah ouais, bah alors après.
Moi, alors que le bailleur, il m'a envoyé un courrier en me disant que c'est l'avocat qui doit demander.
D'accord.
Ouais, c'est même mon médecin traitant, vous voyez, même mon médecin traitant, il m'a dit vous demandez pour vous appuyer dans le truc, c'est à l'avocat qui me demande. Et moi, je vais lui faire un certificat médical détaillé de pas santé, quoi. Mais l'avocat, il veut pas faire tout ça, quoi. Il m'a dit, c'est à moi de faire tout ça.
Alors. Ouais, alors on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que si c'est un confrère à l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire qu'on considère que ce genre de démarche entre guillemets ne seront pas rémunérés en plus. Donc voilà, il est désigné pour un divorce, il va faire le divorce et il va pas, se défoncer pour la procédure. Ouais, il y a aussi cet aspect-là.
Mais maître, justement, j'ai une question.
Vous avez encore une question?
Non, juste une question. Ah bon, après, ouais, je vais vous appeler sur votre numéro, c'est possible.
Il y a du monde qui attend, Hamid. Hein.
Ouais, je sais. Juste une question. Est-ce que je peux changer l'avocat ou pas?
Vous pouvez changer d'avocat, sauf qu'il demandera quand même à être indemnisé de la démarche qu'il a faite, puisqu'il a quand même été présent lors de l'audience et il a fait son boulot. Et puis, il pourrait vous demander à vous, puisque si vous changez d'avocat, l'État va pas le payer. C'est-à-dire que ce sera à vous de rémunérer ce qui lui est dû, donc il va vous envoyer une facture. Et ensuite, vous pourrez solliciter un avocat, mais de ce que vous êtes en train de me dire, ce sera un avocat au titre de l'aide juridictionnelle. Donc, l'ordre des avocats vous désignera quelqu'un d'autre.
D'accord. De toute façon, je vais vous rappeler sur votre numéro personnel, de maître.
Rappelez-le pour tout le monde, maître Serran, d'ailleurs.
Ouais. Alors, je suis joignable au 06 62... Ouais.
58, 59, 67.
64, 06, 62, voilà. 58, 59, 64.
Voilà, Hamid. Alors, nous avons Fatia qui est avec nous, maître Serran. Fatia, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, Philippe. Bonjour, maître Serran.
Bonjour, Fatia.
Alors, je vous appelle concernant la demande de nationalité française. Ça fait depuis l'âge de 14 ans que je suis en France, j'ai été à l'école, je travaille depuis plus de 20 ans et je suis mariée avec un Français, d'origine française. Et j'ai envie de me lancer à la demande de naturalisation justement et je voudrais savoir la différence entre la demande par mariage ou par décret et quel est le rapide entre les deux.
Non, alors d'abord il n'y a pas de... Comme dire, tiens, il n'y a pas de différence particulière, c'est-à-dire la finalité reste la même. Donc, voilà, si vous êtes marié avec une personne de nationalité française, eh ben, vous pouvez opter pour, entre guillemets, j'allais dire, pour cette option. Maintenant, souvent, la question est posée, si j'ai deux, trois options, l'option la plus rapide. En matière de nationalité française, madame, il n'y a pas d'option rapide. C'est-à-dire que c'est toujours très long. L'administration, prend son temps, mais on peut l'entendre et le comprendre. Il s'agit quand même, pour un pays, de donner sa nationalité. Donc il n'y a pas de... voilà, là vous avez, contrairement à certaines personnes qui ont zéro option, vous avez plusieurs options, donc vous avez le choix, mais il n'y a pas d'option plus rapide. Ce ne serait pas sérieux de vous dire prenez l'option A ou l'option B, ça ira plus vite. Honnêtement, quelle que soit l'option, tout ce qui est lié à la demande de nationalité française, ce sont des procédures qui restent longues.
D'accord. Et concernant tout ce qui demande comme papier, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, ce qui m'a freiné, c'est tout ce qui demande comme papier. J'avais pas envie de me prendre la tête à amener tous les papiers, dont l'extrait de date de naissance qu'il faut ramener du pays où je suis née, forcément. Donc voilà.
Mais ouais, enfin ça à minima, enfin on peut pas demander à l'autorité française.
Ah, le problème c'est qu'on en demande, mais vu qu'on fait pas le quota administratif tout de suite, il dure que 3 mois. Donc il faut redemander à chaque fois. Quoi.
Ouais, oui, c'est la validité des actes d'état civil. Mais encore une fois, voilà, moi je suis pas surpris. Même nous, en qualité d'avocat, il nous arrive de presser les clients en disant, voilà, faites le nécessaire. Mais vous savez, à partir du moment où on est demandeur, c'est-à-dire on peut pas engager une procédure auprès des autorités françaises, demander à bénéficier de la nationalité française, et j'allais dire critiquer les conditions dans lesquelles les documents doivent être réunis. Mais je crois que ça vaut aussi pour l'Algérie, la Tunisie, le Maroc ou n'importe quel pays. C'est tout à fait normal. Il y a un timing à respecter et je vous invite évidemment à le respecter parce que si c'est pas le cas, vous êtes obligé de repartir à zéro.
Oui, bien sûr.
Voilà, mais c'est légitime. Hein. Voilà, il y a rien de surprenant. La France n'est pas plus dure que n'importe quel autre pays au monde pour donner sa nationalité française.
Ok. Bon, bah écoutez. Bon, bah le, on va voir pour le choix, parce que s'il y a pas, je pensais qu'il y aurait un temps minime selon l'un ou l'autre, mais bon, si c'est
non,
pareil.
Mais optez pour le mariage. Si vous êtes ouais, avec monsieur de nationalité
sachant
française.
Sachant qu'il y a des enfants et tout ça.
Il y a, pardon, vous m'avez dit, des enfants.
Il y a des enfants.
Bah, on a des enfants, oui, on a bah trois
non,
enfants.
Bah, c'est carré. Non, non, bah, vous pouvez opter pour cette option.
Et par contre, je ne sais pas si vous avez entendu, juste une question que je me pose comme ça, à l'époque du Covid, c'est vrai que...
Oui, il y avait une certaine souplesse, entre guillemets, pour remercier...
Bon, des professions, certaines
oui,
professions,
voilà,
parce pour... que je travaille en maison de retraite depuis 20 ans, et c'est vrai qu'on a eu un papier ou au cas où, est-ce qu'il est toujours...
Bon, alors... déjà à l'époque, c'était appliqué au compte-gouttes, mais c'est vrai que l'administration française en a quand même un peu tenu compte. Maintenant, je crois que c'est entre guillemets passé de mode. Vous voyez, ça c'était intéressant tout de suite après cette période.
Ouais, il aurait fallu compliquée. Le faire tout de suite, quoi, ouais. À cette époque.
Ouais, okay. Franchement, ouais, parce que souvent la question m'est posée, mais non, aujourd'hui, voilà, les autorités françaises.
C'est vrai que ça a été déjà zappé.
Oui, c'est-à-dire que on va pas, en tout cas, la France
y a
pas
plus
être
de COVID, Matt,
éternellement reconnaissante. Non, il paraît que...
On ne sert plus à rien maintenant. On n'est plus applaudi.
Dites donc, franchement, hein, c'est terrible. Non, mais bien sûr, oui.
Ouais. Bon, ouais. Il n'y a plus de COVID.
Bah, écoutez, je sais pas. Moi, en tout cas, je vois de moins en moins de masques et tout le monde s'embrasse.
Bien, merci Fatia pour votre question, Maître Serran. Alors, redonnez votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous appeler, puisque le samedi, maintenant, vous répondez, vous faites
oui,
standard.
Absolument, oui, absolument. Je suis joignable tout près de mon Sequoia au 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Voilà. Et le week-end, le dimanche, on peut vous retrouver dans la forêt de Sherwood.
Absolument. Je vois que vous êtes informé.
Parce que tous les dimanches, vous partez, Maître Serran, sur votre bicyclette.
C'est ça. Voilà. Ah ouais, ça fait du bien.
Qu'est-ce qu'il y a, Faudil ? Qu'est-ce que tu veux nous dire ?
Il part pour une aventure.
Pour une aventure, oui. C'est, on peut dire ça comme
c'est
ça.
C'est une aventure.
Maître Serran est adepte de la sylvothérapie.
Voilà. Hein ?
Voilà, sylvothérapie, il fait des câlins aux arbres.
J'adore les arbres.
Bien, vous avez entendu sa voix, l'imam Abdelali Mamoun, qui lui aussi aime beaucoup les arbres, hein, sera là avec nous dans un instant. Et vous pourrez, vous aussi, participer au standard au 01 53 48 3000.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.